Bon, Pierre, voilà une excellente question de départ ce matin. Oui. Quand on veut investir, quand on est jeune, quand on a 20 ans, qu'est-ce qu'il faut savoir?
J'ai discuté avec un étudiant hier dans un podcast étudiant, puis il me disait, hey, nous autres, là, à 20 ans, là, on devrait-tu se lancer, tu sais, d'investir par nous-mêmes? Et je dis, attends une minute, là, je peux pas te donner un conseil là-dessus, sauf réfléchir. Le premier, c'est de dire, si tu investis par toi-même, tu vas avoir la capacité de prendre plus de risques et donc potentiellement de faire plus de rendement. Pourquoi? Parce que quand tu te pointes dans une institution financière, on fait ton profil d'investisseur et on définit souvent 5 niveaux de risque, 5 niveaux de profil. Et même pas le plus risqué, ben on mettra pas tout ton argent à la même place. Là, on va te donner une pondération action puis peut-être un peu d'obligation ou de titre à revenu fixe. Et donc, même si tu te crois très audacieux dans ce que tu réponds comme question, puis ton niveau de connaissance en finance est-il assez élevé, le conseiller va te catégoriser. Et d'ailleurs, Paul, prenons l'UDA. L'Union des artistes au Québec, c'est très drôle parce que je suis allé ce matin dans le gros détail. Puis je remarque une chose. Le profil le plus audacieux qu'on me propose, si je réponds aux questions de façon la plus audacieuse, 20% de titres à revenu fixe, 15% de fonds diversifiés, puis 65% à peu près là, de fonds d'actions canadiennes. Ce qui veut dire que même mon 15% de fonds diversifiés possède lui aussi 33% d'obligations. En gros, dans l'épargne collective, l'épargne à travers les fonds, tu n'auras jamais de conseiller qui va te dire « Mets ton argent dans GameStop ». OK? Il n'y en aura pas de ça, de « all-in dans Tesla » ou « all-in dans le Bitcoin ». Tu comprends? Donc, quand tu t'en vas dans une institution, le conseil, ça c'est le deuxième point, a une valeur. Il y a des gens qui analysent les titres, qui analysent des portefeuilles, qui proposent des choses aux conseillers. Ton conseiller ne passe pas sa vie quand tu commences à analyser des titres. Il se fie à des rapports et à des profils d'investisseurs déjà définis pour lui. Il fait de la relation client. L'autre affaire, plus tu as de l'argent, mieux on va te traiter. Donc, quand tu commences dans la vie, c'est sûr que tes frais de gestion par rapport à ton actif, c'est pas super de payer 10$ par mois quand tu as 500$ de placement. Et plus tu vas avoir de l'argent en actif, plus l'institution va baisser tes frais. Et l'autre point, c'est est-ce que c'est de l'argent que tu peux perdre? Parce que là, un gars de 20 ans qui vient me voir, mais qu'il faut qu'il paye ses études, son appartement, je dirais pas de, entre guillemets, jouer en bourse ou investir. Mais si tes parents payent ton appartement, paye tes frais de scolarité, puis tu as les moyens de t'amuser. Parce que dans le fond, par rapport à ton ami qui, lui, doit tout payer ses frais de subsistance, tu as les moyens de perdre. Ben, vas-y, tu sais. Mais dis-toi que tu peux pas faire juste des bons coups. Fait que là, ils sont bien excités. Hein. Ils ont vu Tesla, GameStop encore pour une raison arbitraire hier qui remonte, les cryptos qui jouent. Ça les excite beaucoup. Hein. C'est comme jouer au casino, mais dans la vraie vie. Et donc, dans une période faste comme maintenant, c'est très attirant pour les jeunes. Faites attention.
Maintenant, Facebook et les médias traditionnels, on a vu cette histoire avec l'Australie, là, où on boycottait. Finalement, on a dit non, on va. Et la question que tu poses ce matin, est-ce que Facebook a besoin des médias traditionnels?
En fait, c'est ce que je me dis. Facebook, dans le fond, dans sa substance, c'est une grosse agence de pub. Tu as des clients qui sont des gens qui veulent faire de la publicité, puis tu leur proposes des marchés. Des hommes de 20 à 35 ans qui aiment le sport. On leur vend ça. Là, tu les catégorises en milliers de catégories. Et donc, l'investissement dans le contenu, ce que Facebook veut, c'est d'acheter la paix pour l'instant. Mais pour Facebook, c'est bien une valeur. Mais une photo de chat qui génère beaucoup de visuels, beaucoup de likes et beaucoup d'échanges a autant de valeur qu'un article du New York Times si le client passe autant de temps sur Internet. Ce qui est bien avec les médias pour Facebook, ça amène de la diversité de contenu qui se renouvelle, puis des échanges, puis des chicanes, puis les gens non, sont
mais
plus
autant... Je le vois avec Apple News, là, qui va piéger à gauche puis à droite, puis qui nous envoie des mises à jour. Hein, c'est comme... C'est un fil de presse piraté, dans le fond.
Mais c'est un fil de presse qui sert de tout le travail des autres puis pour redistribuer de la nouvelle et qui achète aussi, tu sais, Apple, il faut dire qu'ils achètent des abonnements pour leurs clients et tout. Mais la question, c'est comme la différence entre la télé, c'est que la télé se sert de la pub. Tu sais, la télé se sert de la pub, dans le fond, pour créer un contenu, mais ça demeure une entreprise privée parfois. Mais Facebook, le but, c'est de faire du cash puis... Le partage d'amitié, puis tout ça, c'est rester longtemps. D'ailleurs, je vais voir qui sont les clients payants. Et les clients payants, c'est en Amérique du Nord. Donc, si tu regardes, dans le fond, les résultats de Facebook, t'as beau avoir juste 195 millions sur 1,9 milliard d'utilisateurs actifs au Canada et aux États-Unis, c'est quand même tes clients les plus payants. Parce qu'ils génèrent, au dernier trimestre, 13,7 milliards sur 28 milliards de revenus. Alors, même si Facebook dit « on va investir 1 milliard dans le contenu », Facebook fait une guerre en disant combien ça coûte acheter la paix? Combien ça coûte faire en sorte qu'on ait une bonne image? Facebook, c'est pas de l'altruisme. Et donc, je pense pas que Facebook valorise beaucoup le contenu médiatique, mais il se dit quel pourcentage de temps passé sur Facebook est attribuable aux médias traditionnels et quels prix sont-ils prêts à accepter ou les pays sont prêts à accepter en taxation ou en contenu pour qu'on achète la paix. Et ce sera le minimum. Et donc là, les pays sont tous contents, les médias sont tous contents de dire « Nous signons des accords avec Facebook. » Alors Facebook, chaque fois que quelqu'un accepte, Facebook a gagné.
Mais c'est le défi du ministre Guilbeault du patrimoine. Là.
Ah oui.
Guilbeault, parce que lui, là, Facebook, c'est une chose, mais t'as les autres joueurs aussi. Là.
Ah, mais le ministre Guilbeault a beaucoup de pouvoir par rapport à une machine mondiale avec des tentacules dans chacune des maisons avec nos 30 quelques millions, 40 millions de Canadiens. T'sais, on n'a pas de poids au Canada. Ça va pas une coalition américaine.
Si les c'est comme Américains l'évasion fiscale.
Mais le problème avec les Américains, c'est que Facebook est aux États-Unis.
Ouais.
Donc, Facebook va capter de la valeur mondiale pour ramener ça dans des jobs aux États-Unis majoritairement. Alors, pense pas que Facebook est pas content et que les États-Unis sont pas contents d'avoir un joueur dominant dans leur pays. Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, c'est tout à la même place, là. Netflix. Donc, les Américains, eux, avant de taxer ces entreprises-là, vont y penser à deux fois parce que c'est contre le American Dream et deux, ce sont des vecteurs de croissance très importants. Et donc, tu as besoin de l'allié des États-Unis qui est le gros marché, mais en même temps, il est en conflit d'intérêts.
Merci, monsieur.
Salut.
Salut, bonne journée. 7h22.